comme c'est le un des conseils municipaux les plus importants, il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Je vais laisser la parole à Charles-Alexandre qui va vous présenter le travail.
Mesdames, Messieurs les élus conseil municipal, Mesdames, Messieurs les membres de l'assistance, c'est un grand honneur pour moi de présenter le rapport d'orientation budgétaire de la commune de Lissy-Lannoy et ainsi et également de porter la vision de la majorité municipale pour le débat qui s'en suivra. Avant de commencer cette présentation, je souhaite remercier Monsieur le maire pour la confiance qu'il m'accorde à cette fonction. Par ailleurs, j'adresse les mêmes remerciements à mes collègues de la majorité municipale. En outre, je souhaite vivement remercier l'ensemble du personnel municipal pour leur implication chaque jour au service des Lissois. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, mais notre commune offre des services que d'autres communes n'offrent pas. Les agents s'investissent au quotidien dans un contexte de plus en plus contraint et qui ne devrait malheureusement pas s'améliorer rapidement. Je remercie tout particulièrement les agents du service finance-comptabilité pour l'élaboration de tous les documents qui vous ont été remis pour ce mois budgétaire et ceux qui vous sont remis, notamment le compte administratif et le budget en fin de mois. Au niveau de la présentation du ROB, il est d'usage de présenter d'abord le contexte international, puis le contexte national, et ensuite la rétrospective des finances de la commune, et de discuter enfin des différentes perspectives qui peuvent s'ouvrir pour notre commune. Donc au niveau du contexte international, nous partons comme l'an dernier avec des incertitudes extrêmement fortes. Elles sont accentuées, notamment du fait de la politique américaine qui reste à définir. Un Brexit qui doit produire ses effets, il doit avoir dans quelques jours, si je ne me trompe pas, demain, des élections en Irlande du Nord. Donc ça risque aussi de causer différents effets. Une situation tendue au Moyen-Orient. Je ne vais pas dire le Proche-Orient, parce qu'au Proche-Orient, depuis 1945, la situation est tendue. Des renouvellements d'exécutifs et législatifs auront lieu aussi dans d'autres pays, notamment le Sénégal, des législatives aux Pays-Bas aussi dans quelques jours, des élections fédérales en Allemagne en fin d'année, et ainsi sera énormément d'effets, et notamment au niveau du rôle de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, et on est en attente des décisions qui peuvent être prises. Des taux d'intérêt qui remontent, ces hausses ont une influence sur le montant des frais financiers du budget de la France, cela augmente mécaniquement les dépenses. La situation limite catastrophique est atténuée par des taux très bas sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui le budget de la France est dans une très mauvaise situation, mais ça pourrait être bien pire en cas de remontée des taux. Donc au niveau du contexte national, là c'est la même chose. Je pense que de toute façon tout le monde la connaît, mais je souhaite quand même le rappeler. La France est dans une situation compliquée depuis 1981. Les budgets sont toujours en déficit. Le poids de la dette s'accentue et les réformes de structure se font attendre. Le chômage est toujours à un niveau très élevé. Cette année auront lieu les élections présidentielles, législatives et sénatoriales. On part avec énormément d'incertitudes. La seule bonne nouvelle que nous ayons, c'est que François Hollande n'est pas candidat à sa propre succession. Au niveau du contexte local, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui a été voté dernièrement? On a la LFI qui nous prévoit une hausse des bases de 0,4%. Le FPIC qui resterait au même niveau, avec une répartition différente. La DSU voit son montant augmenter avec une répartition également différente. Contrairement à ce que le gouvernement fait croire, la DGF diminue. Le bloc communal a échappé, certes, à la réforme globale de la DGF, mais la contribution au redressement des finances publiques est toujours maintenue, bien qu'il y ait une petite réfection de 50%. En 2016, nous avons perçu moins de recettes qu'en 2015. Je pourrais, mais je ne vais pas le faire ici, lister toutes les nouvelles compétences transférées sans que celles-ci aient été compensées. Il y a également l'augmentation du point d'indice qui pèse sur les dépenses de l'exercice 2017. Donc le point d'indice, c'est pour la rémunération des fonctionnaires. Au niveau du contexte local, quelle est la situation? Donc nous avons des demandes stables au niveau du CCAS. On a eu 216 aides pour 2016 à hauteur de 54 359 euros et pour 2015, nous avions 248 aides pour 55 063 euros. ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes dans une ville de classe moyenne en majorité. Pour la rétrospective et la situation au 1er janvier, au niveau des recettes, les chiffres sont à prendre avec précaution, même si on a énormément d'indices. Enfin, pourquoi prendre avec précaution? Parce qu'on n'a pas eu le bilan définitif de la trésorerie, mais les chiffres ne devraient pas évoluer. Au niveau des recettes, comme je venais de le dire, nous avons une diminution en 2016 à hauteur de 1,76%. Bien sûr, le 1,76%, c'est en retirant le contribution de redressement des finances publiques, donc qui ont gonflé artificiellement les recettes, vu qu'on nous a dit il faut que vous inscriviez ça en recettes et en dépenses. Donc on a juste gonflé, c'est juste un jeu d'écriture. Mais en réalité, nous avons une baisse de 1,76% de nos recettes. Pourtant, les taux d'imposition ont augmenté. Et pourquoi nous avons eu cette baisse de recettes? Car le gouvernement actuel ou le précédent avec M. Valls et M. Macron ont décidé d'exonérer certains ménages au niveau de la taxe d'habitation. Et la compensation ne s'est pas faite de manière intégralement. Donc ainsi, on a perdu 70 000 euros de recettes. Et je me permets ici de faire une remarque tout à fait personnelle sur la dernière proposition UBS que j'ai entendue, la suppression de la taxe d'habitation. Qui va financer cette mesure? Dans quelle situation on se retrouvera si on supprime la taxe d'habitation? La planche à billets n'existe plus. Qui paiera? Dans ces cas-là, ce sont les gens qui payent uniquement la taxe foncière. On part aujourd'hui avec une inconnue incroyable dans les budgets si des propositions comme ça vont jusqu'à l'application. Et comme je viens de le dire, il y a une compensation qui avait été décidée par le gouvernement actuel, ou la majorité précédente, parce que le gouvernement a changé, par la majorité actuelle, où on n'a pas compensé intégralement ce qui avait été, entre guillemets, exonéré pour certains ménages. Donc on aura toujours une partie de nos recettes qui nous sera prélevée. Si vous le souhaitez, j'ai le communiqué de presse de l'AMF signé par François Barouin et André Léniel sur ce sujet, et je vous incite vraiment à lire cette proposition sur le site de l'AMF. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas là pour discuter des élections présidentielles, mais cette proposition serait vraiment préjudiciable à notre commune. Pour information, nous avons un peu plus de 6 000 ménages qui sont inscrits au rôle de la TH sur Lys. Bien sûr, dans cette TH, il y a aussi toutes les exonérations qui sont prévues, enfin qui existent. Là, aujourd'hui, je parle de nombre de foyers fiscaux. Pour notre deuxième poste de recette, qui sont les dotations, elle est due principalement à la baisse de la DGF. Nous avons perdu entre 2015 et 2016 21,78 € par lissois. Au niveau des dépenses, les dépenses en 2016 auraient progressé légèrement de 0,92%, bien sûr, hors contribution au redressement des finances publiques. Nous avons continué à maîtriser les dépenses. Je souhaite brièvement évoquer deux baisses notables. Ce sont notamment les dépenses sur les véhicules, donc au niveau du carburant, et les téléphones. Nous avons continué à maîtriser ces dépenses. Les efforts pour les véhicules fonctionnent avec un prix du baril équivalent, voire supérieur aux années précédentes. Nous avons diminué le coût de plus de 30% depuis 2014 et de 10% depuis 2015. C'est la dernière fois que nous payons autant pour le carburant, c'est 2003. Tandis que pour les téléphones, les économies représentent plus de 10 000 euros par rapport à 2015. Donc en une année, on a fait 10 000 euros d'économies sur les téléphones, ce qui représente 23% de baisse. Et là, c'est au niveau des factures, il faut retourner à 1995 pour avoir un tel montant. Là, nous avons réussi à profiter du groupement de commandes lancé par la MEL pour avoir des tarifs ultra compétitifs. Cependant, des efforts restent à fournir sur d'autres postes, et la liste, je peux la lister, je peux vous en faire part quand vous voulez. Notre premier poste de dépense, qui est le personnel, est stable. Même, et ça je l'ai annoncé en commission finance, même nous avons une légère baisse par rapport à l'année précédente. C'est la première fois que ça arrive. Nous avons eu donc cette bonne surprise, ce qui nous permet d'avoir un excédent de fonctionnement supérieur à ce qu'on pouvait attendre. La politique de non-remplacement systématique semble commencer à porter ses fruits, même si nous avons eu donc le début de la hausse du point d'indice et le dispositif GVT, donc glissement, vieillissement pour les carrières. La mutualisation interne, comme le guichet unique, qui est en place depuis septembre 2016, est à reproduire et à amplifier. Nous avons maintenu les 176 ETP. En nombre d'employés, nous avons diminué, mais en temps effectifs, nous sommes restés à 176 équivalents temps plein. Évidemment, c'est notre premier poste de dépense, comme je l'ai dit. Donc un petit point sur la dette par rapport à la situation au 31 décembre 2016. Elle était équivalente à 8,9 millions d'euros. Donc en 2016, nous avons emprunté 600 000 euros avec un taux à 1,02%. Donc c'est un taux très faible. Pour le reste du mandat, nous souhaitons la stabiliser. Il n'y aura pas de baisse notable comme nous avons pu faire pour les exercices 2014, 2015 et 2016. On sera plus sur une stabilisation du fait des investissements importants qui nous attendent. Donc au niveau des orientations, c'est sans doute ce qui vous intéresse le plus, même si réalisé est très instructif et on en discutera lors de l'examen du compte administratif. Au niveau comptable, nous prévoyons une diminution de nos recettes de fonctionnement de 3,38%. Et ce, malgré une très légère revalorisation des bases votées par le Parlement. La baisse est encore une fois due principalement à la diminution de la dotation globale de fonctionnement. En 2017, nous percevrons 86,55 euros par Lissois, soit une baisse de plus de 40% depuis 2013. Ça fait 60 euros par Lissois. Le graphique qui est projeté en principe là est assez révélateur. La question qui est à poser, avons-nous baissé 40% des services que nous offrons en Lissois ? Il est certain que non. Pour 2017, nous prévoyons environ 14,2 millions d'euros de recettes, dont les 727 000 euros d'excédent de fonctionnement de l'année 2016. Quant en dépenses, nous prévoyons 13,2 millions, soit une augmentation inférieure à 1%, on serait exactement à 0,83%. La principale raison de l'augmentation est la revalorisation des carrières des agents. Comme j'ai expliqué, donc là, on continue sur les obligations qui nous ont été adressées en 2016. Alors là, on parle de chiffres, ce sont des prévisions comptables, mais la première question qui doit venir à l'esprit de tous, c'est pourquoi faire ? Pourquoi faire un budget ? Je rappelle ici que c'est un débat et que nous avançons des idées, des remarques, des suggestions tant que celles-ci restent raisonnables. Nous discuterons de chiffres, mais le débat d'orientation budgétaire est avant tout un débat de politique générale, annuelle et pas uniquement une discussion de chiffres. Par ailleurs, la présentation du ROM en commission me semble claire, n'ayant eu que très peu de remarques lors de ce temps préparatoire. Quelles sont les priorités budgétaires de Monsieur le maire et de la majorité municipale ? La première est de continuer dans la rigueur en maîtrisant davantage les dépenses de fonctionnement et en étant raisonnable sur les recettes. Peut-être que certains en voudront plus, mais qu'ils expliquent comment ils vont financer ces projets. Raser gratis aujourd'hui est à la mode, il suffit d'allumer la télévision. Les candidats à la présidentielle tous les jours trouvent des propositions, mais cela n'est pas raisonnable. Les communes ne bénéficient pas d'un revenu universel, la ressource principale est la fiscalité. Ou alors, faut-il peut-être supprimer des services, mais nous ne voulons pas toucher à des services qui nous paraissent essentiels. Nous souhaitons garder des services du quotidien. C'est pourquoi nous gardons une ATSEM par classe en maternelle. Toutes les villes ne le font pas. Et c'est une qualité d'apprentissage pour les petits. Et je pense qu'on a l'unanimité du Conseil sur cette mesure. Nous gardons la qualité de notre cuisine centrale. Nous ne diminuons pas non plus le budget. Nous faisons travailler les producteurs locaux et bio. Nous gardons nos services culturels. Nous gardons aussi notre politique de solidarité. Nous continuons à sauvegarder le foyer logement. En matière de sécurité publique, nous ne baissons pas les moyens, nous les renforçons. Le parc de caméras va encore être agrandi dans la métropole de Lille. Nous avons sans doute être l'une des villes les mieux dotées. Nous garderons les effectifs des agents de police municipale. Nous remplacerons également le chien de la brigade canine qui va bientôt être réformé. Les investissements de cette année seront principalement consacrés à ces politiques. La sécurisation des écoles sera effectuée. La rehausse des grilles, les filtres occultants, et cela sans prendre en compte les caméras de vidéoprotection devant chaque établissement scolaire de la ville et devant la crèche également. Nous allons demander une réfection partielle de l'école Marie Curie avec la toiture et les sanitaires où, il faut le savoir, quand un robinet fonctionne, 19 autres fonctionnent en même temps. Pour un enfant, il y a 19 autres robinets qui fonctionnent. Nous avons déjà remplacé les fenêtres de l'école l'année dernière. Pour l'école Saint-Luc, et là je souhaite aussi insister, nous allons enfin être en règle avec la loi. Le plan lancé en 2007 par la ville de Lys et suspendu entre 2008 et 2014 pour rattraper le coup d'élève du public et du privé sera enfin appliqué, le forfait communal sera égal entre les élèves du privé et du public pour l'année 2017. Cependant, il n'y a pas que ces politiques. Le sport est également concerné. Nous allons aussi lancer un programme de réflexion sur le site Ferry, qui n'a pas connu de réflexion et de réflexion globale depuis sa création en 1981, soit plus de 35 ans. L'accessibilité de ce site est prioritaire pour cette année. Sur ce site, la toiture de la salle de tennis sera refaite et c'est obligatoire. Dans la même veine, au niveau du sport, nous verrons la fin de la création des nouveaux vestiaires du stade Jean Chol, réclamés depuis 25 ans. Concernant le patrimoine, nous continuerons les travaux dans l'église. La voûte de l'église sera protégée cette année. D'autres bâtiments auront aussi des travaux qui se passeront dans leur espace. Nous avons la toiture de la salle des fêtes, des Muliers et l'espace Maurice Caudron. Au niveau de la culture, nous allons réinformatiser la bibliothèque, mettre également un grand écran à la salle de l'Éden. C'est certes un petit clin d'œil de l'histoire, mais c'est surtout pour que nous puissions en profiter au maximum, notamment lors des accueils de loisirs. Pour résumer, nous investirons pour tous les Lissois, nous entretenons et modernisons leur patrimoine, nous agissons au quotidien, quelle que soit leur situation, nous faisons vivre le service public. Et je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci bien.